crónicas de literatura paisana a me Mahmoud Alaya. Adieu, bonsoir Mahmoud.
Bonsoir.
Alors, à queste coppe, à la fin du mois de mars, nous allons à caminer cap à l'île d'Oléron. Et d'accord, per veire un pescado picciò, un pescaire. À qui, così se travaille da quel costato, d'accord?
Oui, oui, on va parler un peu des petits pêcheurs vus par Roger Bitonneau.
Mais quel est aquel Roger Bitonneau?
Ouais, on va en parler, mais je voudrais d'abord dire quelques mots quand même des petits pêcheurs. Enfin, c'est les petits pêcheurs qu'on retrouve un peu dans toutes les îles. Ce sont un peu les paysans de la mer, et certains d'entre eux sont d'ailleurs à la fois paysans et pêcheurs. Hein. Et ces gens-là, ils savent bien ce que c'est que la pénibilité du travail, la dépendance par rapport à la nature et aux caprices du temps. Et ils partagent avec les paysans plusieurs valeurs sociales, notamment la solidarité et l'esprit de famille.
Et justement, la famille Bitonneau.
Voilà. Alors, Roger Bitonneau, c'est un paysan de l'île d'Oléron. Il est aujourd'hui retraité, mais c'est un autodidacte qui est à la fois écrivain, poète et merveilleux conteur. À travers ses écrits, ses poèmes, ses contes, il cherche à communiquer la connaissance du milieu insulaire dont il est issu. Roger est forcément influencé par un environnement maritime envoûtant, mais aussi parfois tragique. Il a publié un livre intitulé « Contes sur les falaises de Chassiron », sous-titre « Contes et récits de l'île d'Oléron », où l'on retrouve l'identité insulaire de ce paysan de l'île. Au-delà, il écrit des poésies, des chansons, hein, toujours inspiré par l'histoire de cette île que l'on qualifie de lumineuse.
Mais a travaillé d'inumité associative, Tabé.
Oui, oui, il a été beaucoup dans les foyers ruraux, il a été maire de sa commune pendant longtemps, et il est également, il est militant de l'association des écrivains et artistes paysans. Je voudrais aussi rappeler l'adresse de cette association, l'Association des écrivains et artistes paysans, l'adresse du site internet, hein, c'est www.écrivain-paysan.com. Hein, je répète, www.écrivain-paysan.com. Sur ce site, on trouve l'information sur les ouvrages écrits par les paysans, justement, sur leur vie, leur vécu, leur culture, leurs valeurs, etc. Et il y a plus de 400 ouvrages qui sont répertoriés sur le site, avec des résumés, avec des présentations des auteurs, etc. Et on trouve également nos émissions, les émissions de Radio Languedoc, la totalité des émissions qui ont été dédiées à la chronique, aux chroniques de littérature paysanne. Hein, parce que des fois, les gens ont raté des émissions, ils peuvent les retrouver sur le site que je viens de donner. Alors, moi, j'ai rencontré récemment Roger Bitonneau. Moi, je le qualifie vraiment c'est un paysan plein de sagesse et d'humilité. Et il m'a décliné un de ses poèmes, intitulé « Les autodidactes », dont il fait partie. Et il m'a présenté un conte merveilleux sur les petits pêcheurs, un monde qu'il connaît bien. Écoutons-le.
Les autodidactes. Nous, les autodidactes qui avons tout appris en écoutant le vent chanter sous la ramure, avons dû travailler autant qu'il est permis pour goûter nous aussi aux joies de l'écriture. Car nous avons longtemps subi comme un complexe le manque d'instruction qui nous a fait défaut, nous obligeant toujours à reprendre le texte si nous voulions écrire à peu près comme il faut. Nous avons galéré dans nos incertitudes et beaucoup réfléchi avant de publier, regardant vers ceux qui ont suivi des études, ayant parfois envie de nous faire oublier. Car publier un texte et le donner à lire, est-ce l'acte d'orgueil ou bien d'humilité ? En ce qui me concerne, je ne saurais le dire. Comme beaucoup d'amis, j'ai longtemps hésité. Et si souvent nos œuvres ont des imperfections, si la syntaxe étonne quelquefois le lecteur, dites-vous bien au fond que la seule ambition a été de pouvoir écrire avec
ferme. Les deux rames. Quand il eut 15 ans, il déclara qu'il voulait être pêcheur, marin pêcheur. Dans sa famille, dans son entourage, tout le monde s'y attendait un peu. Tous ses moments libres, en dehors de l'école, il les passait, avec les hommes du village, à la pêche à pied, à la côte. Les crabes sous les roches, les anguilles sous les goémons, à l'ouillage, où on pêchait des bars et des mulets, il y prenait un réel plaisir. Mais ses pêches ne le satisfaisaient pas complètement. Ce dont il avait envie, ce dont il rêvait, c'était d'aller plus loin, d'être un vrai marin-pêcheur, d'avoir une barque et de quitter la côte. Mais à 15 ans, ses parents le firent patienter quelque temps et pendant cette période, il en profita pour faire tous ses préparatifs. Il s'embarqua à l'île de Ré sur un petit chalutier, également fileyeur et caseyeur. Il apprit le métier. Avec ses économies, il acheta une barque à La Rochelle. Et quand il eut 18 ans, il empoigna ses deux avirons, ses deux rames, et il quitta la terre seule pour la première fois. Les gens du village souriaient. Il passe des journées entières à se promener sur l'eau, c'est un paresseux. Il serait mieux avec son père à travailler dans les vignes, mais lui, discrètement, le soir, rapportait de pleines mannes de poissons. Il partait tôt le matin, à jeun, de peur de tomber à l'eau et d'avoir une congestion, et il relevait les filets qu'il avait posés la veille. En général, il faisait de belles pêches. Plus tard, il se spécialisera dans les casiers à crabes et à homards, et il y gagna bien sa vie. Sa vie, la vie, lui apporta son cortège de joie et de peine. Il se maria avec une femme du continent, une étrangère, et bien qu'elle ne connaisse pas le métier, elle fut une bonne épouse et une bonne femme de marin. Un jour qu'ils travaillaient à deux, au pied du rachet d'Antioche, la fragile embarcation fut retournée par une déferlante. On était en novembre, l'eau était froide, les deux hommes tentèrent de gagner la tour d'Antioche à la nage. Lui eut la chance de saisir l'échelle extérieure qui conduit en haut de la tour. Son compagnon disparut sous une énorme vague dans un ressac. Il ne le revit plus. On retrouva son corps à la côte un mois plus tard. Cet accident, ce drame, fut pour lui un coup terrible. Il voulait tout abandonner, il ne voulait plus aller en mer, il ne voulait plus sortir. Alors ce fut son épouse, la Continentale, qui, malgré son manque de connaissances, malgré sa crainte, sa peur, s'embarqua avec lui et, à force de courage, de persévérance, lui redonna goût pour ce métier qui, finalement, était sa raison d'être. Et puis tout reprit normalement, et pour lui, comme pour tout le monde, l'heure de la retraite arriva. En même temps que la retraite, son épouse fut atteinte d'un mal difficile, de ceux qui laissent peu de chance. Alors lui qui avait du temps, il était en retraite, lui consacra tout son temps. Il la soigna du mieux qu'il put, avec dévouement, j'allais dire avec amour, bien que dans ce milieu, chez des personnes de cette condition, on n'en parle pas, mais qu'il est souvent plus grand, plus beau que chez ceux qui l'affichent sans pudeur. Alors il y eut une rémission, un léger mieux, beaucoup d'espoir. À ce moment, un jeune du village eut envie à son tour de devenir pêcheur et refit à peu près le cheminement que lui-même avait accompli 40 années auparavant. Apprentissage, école de pêche, et à 18 ans, le jeune s'embarque seul. Alors lui, qui avait du temps, je vous le disais, son épouse allait beaucoup mieux, s'embarque avec le jeune. Il lui transmet toutes ses connaissances, tout son savoir, toutes ses astuces, ses combines généreusement, sans réserve, comme on ne le fait généralement qu'à un fils. Et au bout de quelque temps, quand il vit que le garçon était capable de travailler seul, alors il sortira. Oh, il ne l'avait pas abandonné complètement. Depuis la falaise, il le surveillait aux jumelles au cas il serait arrivé quelque chose. Et finalement, il était heureux. de voir, au large, sur les têtes de roche où il avait tant travaillé, un garçon du village qui posait du matériel et qui gagnait bien sa vie. Tout n'allait pas si mal. Un jour de beau temps, il avait repris sa petite barque, son canot, comme nous disons chez nous, pour aller poser un bout de filet pour pêcher du poisson pour la famille. Quand il voulut rentrer, la mer était retirée. Oh, ce n'était pas le problème. Il va laisser son canot sur une ancre, au pied d'une banche. Après le repas, à la mer montante, il prendra le canot du voisin. Il ira chercher le sien, qu'il ramènera en remorque avec un bout. Il avait été un rameur infatigable. Et bien qu'il eût vieilli, il avait encore un bon coup d'aviron. Après le repas, le voilà qu'il entreprend comme prévu le remorquage. Prend le canot du voisin, se rend sur le sien, passe un bout, relève l'ancre, et le voilà rentrant avec les deux embarcations. Une petite vague, qui le connaissait bien, voulut lui lancer un défi amical. Elle se gonfla sur son passage. Lui, avec un sourire, répliqua par un puissant coup d'aviron. Une violente douleur lui traversa la poitrine. Il tomba en arrière. Le sourire n'avait pas eu le temps de quitter son visage. Il tenait encore ses deux avirons, mais il était mort. Alors, la petite vague, s'apercevant du drame, se dispersera maladroitement et fit une couronne d'écume blanche autour des deux embarcations qui dérivaient doucement au milieu de la mer fleurie. Quand le flot les eut ramenés à terre, ses amis qui depuis la falaise avaient compris qu'il se passait quelque chose d'insolite, ses amis virent un vol de mouettes blanches, monter très haut dans le ciel, puis disparaître. Ils le trouvèrent étendu au fond du canot. Il ne tenait encore ses deux avirons, ses deux rames, celle-là même qu'il avait empoignée 40 années auparavant quand il avait quitté la terre seule pour la première fois.
La mer qu'on voit danser le long du golfe clair a des reflets d'argent. La mer, des reflets changeants sous la pluie. La mer qu'au ciel d'été confond ses blancs moutons avec les anges si purs. La mer, bergère d'azur infinie. Voyez, près des étangs, ces grands roseaux mouillés. Voyez, ces oiseaux blancs et ces maisons rouillées. La mer les a bercés le long des golfes clairs et d'une chanson d'amour. La mer a bercé.
Aquí eran las crónicas de literatura paisana de Mahmoud Alaya.